Cube Radio. De 8 à 10.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Jeudi 27 février, vous êtes à Politiquement Incorrect, un jeudi auquel on attendait tellement de neige, finalement on est sous la pluie. Politiquement Incorrect, ben on va parler de politique ce matin, certainement parce que je voudrais vous parler un peu de François-Philippe Champagne. On sait qu'il est à Montréal ces temps-ci, je peux vous dire que l'ayant côtoyé quand même un bon bout de temps, on a pu constater à quel point c'est un homme affable, qui connaît bien le métier, connaît bien sa région, la Mauricie, et il a été ministre des infrastructures et des collectivités longtemps, dans le gouvernement précédent, et il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Et honnêtement, de tous les ministres ont les nouveaux ministres et leur nouveau portefeuille, on peut dire que M. Champagne a été servi. Hein? On se rappellera donc qu'actuellement, il est évidemment très en cause dans toute l'histoire du coronavirus. Il est très en lien avec toutes les communautés internationales. Il ne doit pas, dis donc, ça ne doit pas chômer dans son bureau. Mais l'année a commencé en feu, hein, avec un événement d'une tristesse infinie. Le 8 janvier dernier, le vol 752 était abattu par un missile iranien. Bon, on a le sentiment que c'est un tir qui a été fait par erreur. Le sentiment, le mot est pas juste, là. Bon, mais justement, je ne saurais pas qualifier exactement la nature, la qualité de l'information qu'on a sur la nature des événements, parce que précisément, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et c'est ça qui m'apparaît tout à fait improbable, qu'après tout ce temps, et ça fait le 8 janvier, là, ça va faire 2 mois, on a eu 176 personnes qui sont décédées parce qu'il y a un ticoun qui a mal compris puis qui a pesé sur le mauvais piton. On a eu des décès pour lesquels le Canada a été certainement le pays le plus touché, bien qu'on dit que dans les victimes, il y avait des Afghans, des Allemands, des Britanniques, mais il y avait aussi 10 Suédois, 11 Ukrainiens, 57 Canadiens, 82 Iraniens. Et dans tous ces cas-là, bien sûr, ils avaient ces passeports de différents pays, dont le Canada, mais beaucoup, 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 la vaste majorité de ces passagers s'en venaient au Canada. Donc, c'est une douleur que le Canada et le Québec, et même la région de Montréal, ont vécu de très près. Et là, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les fameuses boîtes noires ne sont toujours pas ressorties d'Iran? C'est vraiment pitoyable de voir qu'on a encore, en ce moment, on est un peu comme en otage. Beaucoup de familles aimeraient avoir l'information juste, beaucoup de gens de l'industrie aérospatiale, toute la communauté internationale, actuellement, semble un peu comme pas savoir quoi faire avec l'Iran qui, au début, affirmait que les boîtes noires étaient pas en bon état, et qu'il n'y avait pas le matériel pour le lire, puis que finalement, aujourd'hui, il nous évoque, je lisais hier encore sur Internet, qu'elle a eu de tellement gros dégâts qu'elles ne pourront pas être réparées. Mais honnêtement, que se passe-t-il? Comment ça se fait que tous les pays touchés ne peuvent pas faire une pression de façon plus intense? Évidemment, actuellement, l'Iran est un foyer important pour le coronavirus. Alors, c'est sûr qu'ils ont sûrement pas mal de chats à fouetter. Ça va changer des autres personnes qui fouettent d'habitude. Mais la vérité ici, c'est qu'on se demande comment ça se fait que la communauté internationale ne peut pas faire pression. Ça serait même une belle occasion que le monde occidental dise à l'Iran, là, excuse-moi, là, mais tu peux runner tes affaires comme tu veux chez vous, mais là, ça nous concerne, on a besoin de l'information, et je pense que l'opinion publique, mais même simplement la politique internationale dans son ensemble, serait soulagée de voir que finalement, on peut obtenir, c'est quand même incroyable, il y a eu un crash d'avion, il y a eu tellement de victimes innocentes, et pour le moment, on n'a toujours pas accès au fondamental. L'ABC d'un crash d'avion, c'est de récupérer les boîtes noires. Ça m'apparaît totalement inacceptable. Et je ne sais pas, évidemment, ça doit se passer en très haut lieu, toutes ces conversations, mais il y a quelque chose qui traîne et on est occupé actuellement avec toutes sortes de problèmes internationaux qui touchent tout le monde au-delà des frontières. Mais ça m'apparaît quelque chose qui devrait être réglé rapidement parce que ça, c'est politiquement incorrect.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
On parle tellement de la Chine ces temps-ci, puis évidemment, moi, quand j'étais petit, je me souviens, les Chinois, c'était quelque chose, on en parlait comme simplement d'un grand, grand pays communiste, puis je me souviens, c'était assez incroyable, on était tellement colonisateurs sans même le savoir qu'on disait qu'on pouvait même s'acheter un Chinois. Imaginez-vous, on est rendu loin, loin de là. On va en parler avec notre chroniqueur économique à la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec, Michel Girard. Bonjour, Michel.
Chinois qui peut nous acheter, là.
Tu penses ça, on peut les acheter maintenant? Moi, je pense pas, moi.
Ouais, sinon, mais c'est le Chinois qui va nous acheter. Mais cela étant dit, la Chine, écoute, c'est une puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale en passant, là, hein, en termes de PIB, là. Mm-hmm. Regarde, en 2002, l'économie chinoise représentait 8% du PIB mondial. Le PIB mondial, je rappelle aux gens que c'est l'ensemble de la valeur des biens et des produits. Là.
OK. Et là, quoi? Ça a plus que doublé, non?
Actuellement, c'est 20%.
Quel changement?
20% du PIB mondial. Et à titre de comparaison, les États-Unis, c'est 17%. Donc, c'est la première puissance économique mondiale à l'heure actuelle en termes de pourcentage du PIB mondial. Alors, évidemment, la crise que traverse la Chine à l'heure actuelle, le risque de ralentissement en raison de la propagation du coronavirus, bien sûr que quand tu occupes une telle place mondialement, alors c'est certain que ça va avoir des répercussions. Ça a des répercussions sur tout le monde à travers la planète, tous les partenaires commerciaux, dont le Québec, évidemment. Mm-hmm. Alors, l'exercice que j'ai fait aujourd'hui dans ma chronique, c'est de voir quel était le poids que représentait la Chine dans nos importations, dans l'ensemble de nos importations de produits. Mm-hmm. Et puis les derniers chiffres, on importe de la Chine autour de 13 milliards de dollars. Mais ce qu'il faut savoir, le 13 milliards, bon, c'est relatif en soi, là, ça représente à peu près 13% de tout ce qu'on importe là, de l'étranger, mm-hmm. j'entends. Mais c'est l'augmentation, c'est qu'au cours des 14 dernières années, les importations en provenance de la Chine occupent le tiers de l'ensemble de l'augmentation de nos importations. Alors, ça te montre à quel point
C'est la nouvelle Chine vague, et c'est eux qui occupent toute la nouvelle, les nouveaux produits que nous importons, c'est eux qui dominent largement. Là. Puis je regardais dans tes chiffres, t'évoquais au niveau des appareils électroniques et tout ça, 2,15 milliards. Meubles, articles de literie, lampes, 985 millions. Effectivement, moi, je à ma grande surprise, l'autre jour, j'ai acheté un meuble que je croyais de réputation faite au Canada, au Québec, de la région de Sherbrooke, si je me souviens bien, faite en Chine.
Ah ben oui, ben c'est ça. Alors, quand on porte... c'est bon d'attirer l'attention des auditeurs. Quand tu portes attention là, où c'est fabriqué, on va s'apercevoir, tu regardes les jouets, les jeux, les articles de sport, c'est 488 millions. Les chaussures, mm-hmm. on se promène. Là, regarde en dessous, là, tu vas voir, on en importe pour 305 millions en provenance de la Chine. Alors, les vêtements, c'est près d'un milliard. Donc, la Chine est très
Michel,
présente
chez nous. Et Michel, c'est souvent surprenant quand tu... Évidemment, c'est un classique, mais disons, une figurine d'un personnage mythique américain, je sais pas moi, Johnny West ou je sais pas, John Wayne, qui est faite en Chine où tout, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les petites voitures miniatures, qui collectionnent les autos. Elles sont, je parlais avec au salon d'auto avec un importateur qui me disait que tout, même les marques de grand prestige, comme dans n'importe quoi, il y a des modèles signés, il y a des modèles numérotés, des séries limitées. Pour, par exemple, une voiture très, très rare qui a été refaite en modèle réduit, en métal et tout ça, même les produits de prestige sont fabriqués en Chine parce que la Chine, au-delà d'avoir réussi ils ont même développé une compétence que plusieurs cherchent même plus à rivaliser.
Effectivement. Donc, tu fais bien de le mentionner. Là, tes grandes marques, là, bien des produits sont maintenant fabriqués en Chine. Après ça, on les importe ici. Ou bien ils fabriquent des pièces, puis on importe les pièces, on les assemble ici. Mais en tout cas, toujours est-il, la Chine, finalement, est extrêmement présente. Et dans le contexte à l'heure actuelle, parce que là, il y a des villes, on le sait, là, qui sont fermées en Chine. Mm-hmm. Donc, il y a des produits qu'on importait qui ne seront pas, évidemment, fabriqués, en tout cas pendant un certain temps.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que ça affecte l'économie mondiale dans tous les pays. Tu sais, tout le monde est visé. Puis là, juste pour te montrer à quel point qu'on est tous visés, je regarde les indices financiers, tu vois, encore là. Là, ça fait 3 jours de suite qu'on est en baisse.
Ça
là,
descend,
là
ouais.
Encore ce matin, là, ça, les probabilités d'ouvrir, en tout cas, les marchés nord-américains vont ouvrir en baisse. Les probabilités sont très fortes. Puis en Europe, ben, ça chute encore énormément. Donc, parce que le gros problème qu'on a, c'est d'évaluer quel est l'impact. Ça va-tu se poursuivre ou bien si on va régler le problème à court terme ou bien à moyen terme? Alors, là, c'est ça qu'on est en train de mesurer, mais d'ici à ce que, évidemment, la crise du coronavirus se résorbe, mais c'est sûr qu'on va être affecté. Parce que là, tu sais, on le sait, là, on a beaucoup de nos entreprises qui ont réduit leur production parce qu'ils attendent des pièces ou des produits en provenance de la Chine. Il y a des marchés, évidemment, tu sais, tu regardes les Doloramas de ce monde,
ben
eux autres, on s'entend-tu qu'ils sont.
Ils doivent être un petit peu inquiets. Hein? Ils doivent avoir comme pas mal de fonds de commerce qui sont pris dans des conteneurs à Vancouver. Mais évidemment,
oui,
c'est
aussi,
un.
Là, notre blocus.
Ben oui, mais c'est l'atelier du monde, la Chine, à bien des égards, mais c'est aussi un marché parce que pour les producteurs québécois, la Chine est un marché d'exportation. Je pense simplement, par exemple, à l'industrie porcine.
Oui, c'est un fait. Alors, sauf que il y a un écart majeur parce qu'évidemment, en termes de balance commerciale entre le Québec et la Chine, notre balance commerciale est très négative.
Bien,
tu vois,
j'imagine.
On importe pour 13 milliards puis on exporte pour 3 milliards. Mais évidemment, les entreprises qui exportent, notamment au niveau des viandes, au niveau évidemment de certains véhicules terrestres, au niveau de la navigation aérienne ou spatiale.
Et le plus gros chapitre dont tu parlais, c'était minerais. Tu parlais des minerais, des scories et des cendres. Tu m'as intrigué avec cette terminologie.
Ouais, alors, demande-moi pas de te préciser exactement quels en sont les produits. Ça, c'est des catégories de produits. Mais effectivement, c'est notre principale catégorie
d'exportation vers la Chine.
Ouais, c'est ça. Alors, oui, parce qu'on est quand même, le Québec est quand même riche en production, évidemment, de minerais, etc. Donc, la Chine représentait un relatif bon marché. Mais là, on a des problèmes, évidemment. C'est sûr que on risque de voir nos exportations vers la Chine chuter. Puis quand je dis vers la Chine, en passant, là, on peut l'élargir aussi à l'ensemble de l'Asie. Là, parce que la Chine, bien évidemment, tu vois, nos importations de l'ensemble, parce que la Chine, c'est 13 milliards, mais de ce qu'on importe de tous les autres pays asiatiques, évidemment, ça totalise à peu près 25 milliards. Donc, tu vois, là, le Japon est également frappé par le coronavirus. Donc, on va être également frappé parce que nous importons beaucoup également du Japon ou de la Corée du Sud.
Et ça peut créer des problèmes d'approvisionnement, bien sûr. Mais Michel, merci de nous faire voir le dessous de la consommation toute simple quand on va au magasin et qu'on achète un article. Merci beaucoup, Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Ça va à la pause, on revient tout de suite après.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Il y a des problèmes dont on entend parler de façon sempiternelle, puis on ne comprend pas. Puis le mot, le terme qui désigne le système dont je vais vous parler est tellement éloquent. On parle du système de paye Phoenix. Un Phoenix qui est supposé renaître de ses cendres, bien, ça fait longtemps qu'il est brûlé. Puis ça, il ne renaît pas de ses cendres. Il y a une entrevue aujourd'hui pour en parler. On a Yvon Barrière, vice-président directeur général pour l'Alliance de la fonction publique du Canada, section Québec. On vient parler donc de ce système de paye Phoenix. Monsieur Barrière, bonjour.
Bonjour, Monsieur Nantel. Merci de me recevoir.
Bien, c'est la moindre des choses. Quand on pense au nombre, je pense qu'on peut parler d'environ 228 000 fonctionnaires qui ont été touchés par les problèmes de ce système de paye catastrophique.
Bien, vous êtes très bien renseigné, effectivement. Tout près là, de 80 % des fonctionnaires fédéraux et employés d'agence ont été touchés, et ça depuis février 2016. Donc, depuis là, que le gouvernement libéral a décidé là, de mettre en application un système de paye qui avait été acheté là, auparavant par... le gouvernement conservateur.
Bien, je vais vous demander de vous rapprocher du micro un peu, M. Barrière. La vérité, d'ailleurs, ça, c'est une technicalité, mais le problème de Phoenix, c'est une technicalité, mais qui, finalement, a compliqué la vie de centaines de milliers de gens qui devaient scruter leur talon de paye avec une loupe pour bien comprendre, parce que ça variait constamment, puis il y avait des erreurs spontanées qui se faisaient à chaque paye.
Mais effectivement, à chaque paye, le système de paye Phoenix fait des dizaines et des centaines de victimes. C'est épouvantable. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont trop payés, des gens qui sont pas payés du tout.
Être trop payé, c'est pas une bonne nouvelle, parce que si tu le surveilles pas, tu vas te retrouver avec une facture d'impôt.
Avec une facture d'impôt assez salée.
Et une paye diminuée après ça pour compenser le trop payé. Puis...
Et très longtemps, donc jusqu'à temps qu'il y ait un amendement au niveau de la loi de l'impôt, mais les gens devaient rembourser à ce moment-là le brut, même s'ils recevaient un dépôt du net. Donc, ça causait d'énormes problèmes. Mm. Mais aussitôt qu'il y a des gens qui sont affectés avec un problème de paye, mais là, ça se poursuit pendant des semaines et des mois, et ça devient, je vous le dis, là, une anxiété là, maladive. Donc, on a eu des gens, écoutez, qui sont partis en dépression, qui souffrent d'anxiété, des crises d'angoisse, parce que à chaque deux lundis, la majorité des fonctionnaires et des employés d'agence, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent sur leur système pour savoir s'ils ont une paye et si la paye ressemble étrangement à ce qu'ils devraient recevoir. Parce qu'il n'y a pas encore personne qui est capable de savoir s'il y a la bonne paye encore aujourd'hui.
Incroyable.
Après 4 ans.
On dirait qu'on est dans une république de bananes quand on entend ça, quand nos fonctionnaires... Tu sais, la réputation du fonctionnaire, ils ont des belles conditions, c'est stable, c'est sûr, etc. Dans votre cas, c'est l'inverse, littéralement. Mais comment... Je veux pas qu'on s'attarde trop longtemps sur la quincaillerie, mais... Comment expliquer qu'un système pareil a pris tant de temps à être réparé? Je lisais que le budget initial prévu pour l'instauration de ce nouveau système était d'à peu près 6 millions de dollars. Et là, on est rendu, puis je regarde mes notes, c'est écrit en caractère genre 28 sur une page, on est rendu à 393 millions. Ça se peut? C'est incroyable!
Non, elle a une petite erreur. Initialement, le gouvernement conservateur croyait économiser 71 millions par année.
OK.
Et on vient de dépasser en décembre les coûts de 2 milliards de dollars de coûts inhérents à la mise en place du système Phoenix. Non, c'est épouvantable.
Ça donne le goût de pleurer, ça.
Et on comprend pas encore aujourd'hui qu'il y a pas un haut fonctionnaire du Conseil du Trésor qui a pas googlé, là, en 2011-2012, système de paye Phoenix, et il aurait vu en Australie 7 ans de malheur pour 80 000 fonctionnaires pour un même ministère.
Pour le même système?
Pour le même système. Oh. Il y avait une revue de presse énorme là, qui décriait le système de paye Phoenix en Australie, qui avait été acheté pour 80 000 fonctionnaires avec 5 conventions collectives.
Okay.
Et ici, il a été acheté pour 300 000 fonctionnaires avec 105 conventions collectives et 86 000 actions de paye. C'était un désastre annoncé. On l'avait dit, on l'avait signalé, on a levé le drapeau rouge, le drapeau blanc. Mais...
Ah oui, parce qu'il y a des compétences, il y a des gens qui administraient la paye de leurs collègues. Je veux dire, il y avait des comptables avec des bordereaux, puis des stylos, puis des papiers carbone. Je veux dire, non, mais tu sais, il y avait quand même une compétence qui était là avant qu'on arrive avec une machine qui est supposée réinventer la voie spatiale vers la Lune, puis en bout de ligne, ils sont même pas capables de générer un chèque avec les bonnes déductions.
Et combien de fois qu'on me dit, et si c'était une entreprise privée qui avait ce type de problème-là, le gouvernement interviendrait.
Ben oui.
Il les obligerait, il les mettrait en amende. Mais c'est le gouvernement qui est pas capable de payer adéquatement son personnel. Puis malgré ça, je vous le dis, nos membres, jour après jour, semaine après semaine, ont continué à aller travailler, les sans paye, ou avec des problèmes. Mm-hmm. Il manquait des il y en a qui manquent des indemnités parce qu'ils travaillent soit dans le milieu carcéral, ils travaillent pour la garde côtière, pour les douanes, ils font du staflementaire ou ils font du temps de soir et de fin de semaine pour l'Agence du revenu. Et ces gens-là attendent encore après un an, deux ans, trois ans, leur fameuse indemnité.
Et là, si j'ai bien compris, on est supposé, actuellement, on est en appel d'offres auprès de trois entreprises pour changer ce système de paye. Est-ce qu'on doit voir ça comme un potentiel soulagement ou comme un autre calvaire pour tout le monde parce qu'il va encore y avoir une période de gestation puis d'analyse? Puis...
Bon, le Conseil du Trésor a décidé de nous impliquer là, dans le processus de l'appel
d'offres. C'est une bonne chose.
C'est une très, très, très bonne chose. Mais le problème demeure encore qu'il va falloir régler tous les problèmes inhérents au système de paye Phoenix avant de le transférer. Le directeur de la Commission parlementaire budgétaire indépendant a sorti un rapport l'automne dernier. Il parle d'un changement potentiel 2023-2024. Donc, Monsieur Nantel, on risque de se revoir l'an prochain.
Alors, est-ce que vous avez le sentiment que la population comprend bien ces enjeux-là? Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous avez une manifestation prévue là, devant le complexe Guy Favreau. Parce que la chronicité d'un problème, souvent, crée une espèce de lassitude. Hein? Les gens, c'est comme, ah oui, encore ça, le problème Phoenix. Mais le problème renaît de ses cendres. Là. Je veux dire, est-ce que vous avez le sentiment que la population saisit bien ce que vos membres, ce que les employés, et ce que les fonctionnaires qui gèrent l'État et qui fait que ça fonctionne bien au niveau du gouvernement vivent?
La bonne nouvelle, c'est que les citoyens, les Canadiens et Canadiennes nous appuient totalement.
Bon.
Et je vous dirais aussi que lorsqu'on fait un peu de lobby au niveau politique, on était encore la semaine passée avec le caucus du Bloc, à 100% en faveur et derrière nos revendications. Puis souvent aussi, un problème n'arrive pas seul parce que nous avons, pour la majorité de nos fonctionnaires, ils sont sans convention collective depuis l'été 2018, et certains employés d'agences, comme les employés de l'Agence du revenu, ils sont sans convention collective depuis 2016. Donc, ça fait 4 ans bientôt, et si on additionne ces deux problèmes-là de aucune augmentation salariale, des négociations qui retardent, un manque de respect du Conseil du Trésor ou de l'Agence du revenu, additionné aussi au fait que nos employés, nos membres, ont pas la bonne paye depuis ces années-là.
Absolument.
Ça devient... Je pense que maintenant, je pense que c'est assez.
Je comprends. Pourriez-vous me rappeler le pourcentage de vos membres qui ont été touchés, affectés par Phoenix? Me rappeler le pourcentage de tous ces employés qui ont été touchés.
Au niveau de la FPC, qu'on représente 140 000 fonctionnaires sur 300 000, c'est 79 % qui ont eu un problème.
Ben voyons.
Mais attendez, 79 % de problèmes qu'ils ont connus.
Oui, parce que c'est pas tout le monde qui analyse son stop de paye avec une loupe. Là.
Et c'est extrêmement difficile avec le nouveau système de pouvoir l'analyser. Écoutez, encore hier, j'étais dans une assemblée générale, j'ai demandé qui pense avoir la bonne paye. Et il n'y a personne qui a levé la main. Il y a personne.
Vous avez été patient.
Honnêtement, trop. Mais là, c'est assez. C'est assez.
Quand vous êtes cétacé, vous sentez que là, il va falloir que vous...
écoutez, si on additionne le problème que la négociation est gelée depuis des mois, que le Conseil du Trésor n'ose même pas nous donner une augmentation au niveau du coût de la vie, si on l'additionne avec les problèmes Phoenix, on débute très bientôt, et c'est déjà débuté aussi avec le syndicat des employés de l'impôt, de l'Agence du revenu, et on va continuer avec les autres départements pour un vote de grève dans la fonction publique fédérale. Donc, on risque...
Je comprends.
Fin du printemps, début de l'été, de paralyser la fonction publique fédérale.
Imaginez. Puis dites-moi, est-ce que chez un citoyen, est-ce qu'il y a des mauvais paiements qui arrivent auprès du citoyen? Bien évidemment, on le voit bien, là, 79 % des employés ont été touchés. Mais chez un citoyen normal, est-ce qu'on peut en vivre les conséquences des erreurs de Phoenix, par exemple au niveau des pensions?
Pas du tout. Présentement, il n'y a aucun impact qui se fait. Écoutez, nos membres et les fonctionnaires sont extrêmement professionnels. Donc, il n'y a pas de grève de zèle qui se fait actuellement et il n'y en aurait pas. Donc, on continue à donner la meilleure performance qu'on est capable. On reste professionnel dans nos actions. Mais il n'y a aucun impact présentement chez
J'en doute pas, honnêtement. Puis je pense que la bonne foi dont vous avez fait preuve pendant toutes ces années, la patience et le soutien que vous avez dû déployer pour soutenir vos collègues qui étaient atteints. Non, quand je posais la question relativement est-ce que ça avait des conséquences sur l'enthousiasme au travail? Non. Je faisais dire si le système de paye Phoenix, est-ce qu'il pourrait aussi toucher, par exemple, des pensionnés fédéraux, etc.? Puis la réponse est non. C'est peut-être un peu aussi ce qui fait que le citoyen, même s'il entend votre cause, se dit, qu'est-ce que je peux faire pour manifester mon soutien? Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour concrètement vous soutenir?
Présentement, on a une manifestation, comme vous savez.
Passer devant et klaxonner.
Et klaxonner. Et aussi dans les réseaux sociaux, écoutez, on reçoit d'innombrables appuis des citoyens en disant « Hey, vous êtes assez patient, vous devriez sortir, vous devriez faire une grève illégale, vous devriez... » Donc, on a l'appui du public. Définitivement, dans nos deux causes, présentement, et ça depuis très longtemps, les fonctionnaires fédéraux ont l'appui du public d'un océan à l'autre, présentement.
Je vous félicite parce que c'est pas toujours évident, puis je vous remercie pour votre patience, puis j'espère qu'évidemment, le prochain gouvernement, parce que ce que vous m'évoquez risque de se retrouver dans un tumulte politique, et très souvent, les politiciens n'auront pas contribué à une résolution du problème. Monsieur Yvon Barrière, vice-président, directeur général pour l'Alliance de la fonction publique du Canada, section Québec, merci beaucoup. Bien. On vous revient tout de suite après cette pause.
Politiquement incorrect.
Cube Radio. Autrement dit...
Gilles Proulx.
Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à ricanade. Parle, genre.
Gilles Proulx.
C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
Voici le commentaire de Gilles Proulx.
Bonjour, M. Gilles Proulx. Je sens qu'aujourd'hui, ils allaient avoir un commentaire d'impatience relié au blocus ferroviaire et à l'inaction qui se passe à Ottawa.
C'est pas difficile de cultiver l'impatience. On la maintient, on en fait une culture.
C'est vrai.
Parce que nous sommes des souris blanches qui avons peur et on est un peuple de trouillards. Et là, on fait un plat avec le fait que Legault alimente le feu. Foutu d'une lâcheté, pour dire de telle sorte. Des choses aussi semblables, Legault n'alimente pas le feu. Il dit simplement ce qui existe et a toujours existé. Malgré l'entreposage des armes de Martin Cochon en passant. Et ils sont sûrement pas allés à Québec pour enregistrer justement leurs armes ou leurs armes au pluriel, ces beaux moineaux. Et la cerise sur le Sunday là-dedans, ce sont ces policiers trouillards qui font dans leurs culottes avant d'approcher des terroristes de téléjournaux. Alors, je suis, moi, tanné d'entendre cet ex-policier grassement payé avec sa pension qui nous fait peur, qui a déjà été un gars brave en 90, Marcel Savard, qu'on galvaude d'un studio à l'autre, pour jouer au sage temporisateur pendant que des voyous lui rient dans la face. Et pour le moment, il n'y a pas d'urgence, dit-il. Comment peut-on trouver une conclusion aussi stupide comme trouillard? Pour le moment, il n'y a pas de gens. Ben non, il n'y a rien que des milliards de dollars. Il n'y a que des emplois qui se perdent. Il y a des gens qui, en Colombie-Britannique, pour lesquels on est supposé de se battre, qui appuient même pas les feux de troubles de Montréal. Alors, on bloque l'économie d'un pays au complet. C'est pas plus urgent que ça. Alors, moi, la question que je pose, monsieur le parlementaire, où sont nos James Bond? Où sont nos James Bond dans nos corps de police? Chaque corps de police a un James Bond ou deux. Voilà la question. On n'est quand même pas... C'est de voir, oui, mais il peut avoir des conséquences pour notre peuple. Blablabla. Pendant ce temps-là, le gaspillage se fait. Pendant ce temps-là, on encourage et on grossit le nombrilisme de ces comiques, ces faux terroristes. On n'a toujours bien pas affaire aux Allemands à Bastogne, en Belgique, ou à la fin de la guerre, où les Allemands avaient manifesté leur dernière volonté de dur à cuire, puis on les a battus, on a affaire à une bande de comiques d'opérettes manipulateurs de médias qui, eux, embarquent là-dedans.
Et pourtant, on a bien vu un des représentants à Kanawake dire « Nous, on attend le mot d'ordre des Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. » Et ça, on attend toujours.
On attend toujours, comme les Juifs attendent l'arrivée du Messie. et aussi les musulmans, parce que nous, on l'a vu, le Messie, il est arrivé en l'an zéro de notre ère, mais eux autres, ils attendent. Alors, c'est ça. Attendre, c'est un analgésique, M. Nantel. Attendre, c'est un valium, c'est tout simplement un endormitoire.
Fait que vous avez un peu le sentiment que l'espèce de laxisme qui s'installe se joue un peu partout. Vous le référez aussi par rapport à cette cause de cet homme qui, en état d'ébriété, avait strictement défoncé une maison avec son véhicule, fauchant la vie de Rachel Middleton.
C'est incroyable. Voyez-vous la justice, encore une fois, lente, comme une justice de tortue. Un gars chou entre dans la chambre à coucher avec son véhicule et tue Rachel Middleton. On est près de Joliette. On a prouvé que Anthony Bélanger, un bon petit garçon, était un chauffeur ivre. Et encore une fois, ça se passe le 26 octobre 2014. Mm-hmm. Je dis bien 2014. De plus, le chauffeur n'admettait pas sa responsabilité malgré son taux d'alcoolémie, deux fois supérieur à la limite permise. Mmh. Alors, bravo, ça aurait pris plus de 5 ans, mais, encore une fois, le scandale là-dedans, c'est que cela est arrivé en 2014 et que nous sommes en 2020 avancé. Alors, c'est plus de 5 ans de torture qu'on a imposé à la famille Middleton qui a dû attendre, puis mal dormir, puis on ne sait pas ce qui va arriver avec cet animal.
Ben, je comprends.
Alors, vous voyez que 6 ans pour condamner un gars là qui tue en plus, ça démontre comment la justice est faible et elle est élastique, dépendant de ton humeur.
Mais, M. Pau, est-ce que ce genre de peine clémente est de coutume dans ces cas de conduite en état d'ébriété?
Certainement, tout est coutume dans notre justice élastique, dépendant à quelle catégorie. Alors là, le petit gars, peut-être, il jouait sur le fait, maintenant, il a 24 ans, c'est un adulte. Mais là, il était un petit bébé innocent, protégé par la loi de la protection de la jeunesse. Alors, après tout, c'était un bon citoyen innocent. Innocent, mais il était sous. Innocent, mais il admettait pas qu'il était sous. Innocent, mais conduisait à 200 000 à l'heure.
Ben ouais.
Innocent, justement, et innocente et la société qui juge.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça change. C'est très frustrant pour la famille de Mme Middleton de se retrouver avec un verdict aussi clément, alors que leur vie à eux a été complètement bouleversée. Puis, d'une manière, très souvent, on peut vivre un drame pareil un peu dans le silence et dans l'inconscience du grand public, sauf que cet accident-là était tellement spectaculaire que tout le monde s'est dit « Hey, faut être sous-mort puis épais et rare pour amener sa voiture à une si grande vitesse puis finir dans le salon, dans la chambre à coucher d'une femme. »
Il suffit d'avoir un bon avocat, beau parleur avec sa toge qui va vous dire « Votre seigneurie, oui, mais en vertu de la charte des libertés, point A, paragraphe B, mm-hmm. on trouve toujours une petite faille pour niaiser, retarder et ne pas condamner, puis après tout, peut-être que 2 ans dans la société, ça serait bon. » C'est effrayant de la justice ici. Alors, à quoi bon avoir des lois comme chez nos amis, les vaches sacrées intouchables? Pourquoi avoir des lois? Une loi, c'est froid, ça s'applique à tout le monde, une loi. C'est pas parce que t'as telle couleur ou telle langue que t'es raciste ou baveux, puis tricheur, puis bandit. La loi s'applique à toi aussi. Non, elle ne s'applique pas.
Et le gros bon sens. Le gros bon sens s'applique aussi. Je pense que vous avez beaucoup réagi aussi à justement, on parle pas de loi, on parle pas de politiques officielles, de façon de réagir au coronavirus, mais vous êtes d'avis que Air Transat a bien fait de jouer de prudence avec l'enfant qui potentiellement aurait pu être contagieux à bord d'un avion d'Air Transat.
Effectivement, il n'y a pas de risque à prendre, que ce soit à bord de Transat ou British Airways, Air France ou Air Canada. Bravo à Air Transat qui a expulsé la famille d'un enfant qui touchait à vue d'œil puis qu'on l'entendait. Transat a demandé une attestation pour savoir si l'enfant était contagieux ou pas. On n'a pas pu la présenter. C'est clair que cet incident-là ou des incidents de la sorte il y a 6 mois, ça n'aurait pas été grave qu'un enfant tousse. Mais maintenant, les souris blanches ont été apeurées par, justement, ce virus mondial. Alors, ça n'aurait pas soulevé, il y a 6 mois, une panique de la sorte. Mais Transat, quand même, n'a fait qu'appliquer les recommandations de l'OACI. Mais c'est drôle, je regardais hier à la télé un scientifique, médecin, un scientifique, il n'y a pas de doute, il disait que ça ne l'énervait pas, lui, puis il va se prendre en avion, puis il va aller en Europe. Et puis, il rappelait qu'au Québec, après tout, nous sommes tellement familiarisés avec nombre de grippes, ça fait partie de notre croissance, de notre existence, qu'il n'y a pas lieu de paniquer plus qu'il ne le faut. Mais nos souris blanches ont peur. Je jasais avec un agent de voyage, la femme est désespérée de voir combien il y a d'annulations chez les souris blanches. Elle ne sait plus quelle destination pour aller les inviter à s'amuser quelque part.
Mais Monsieur Proulx,
l'Amérique du Sud a été visée ce matin, là, on le voit. Oui.
Monsieur Proulx, vous avez parlé de l'OACI, puis j'aimerais vous demander ce que vous pensez de ça. Comment ça se fait qu'on n'a toujours pas les boîtes noires après la tragédie incroyable qui s'est passée en Iran le 8 janvier dernier, qui a fait 176 victimes? L'OACI pourrait-elle jouer un rôle pour essayer de coordonner la sortie des fameuses boîtes noires de l'Iran?
L'OACI pourrait toujours dire « Désormais, c'est arrivé. Moi, je suis allé en Iran et on n'avait pas le droit. J'ai volé à bord des avions Iran Air, mais à l'intérieur du pays seulement, parce qu'une décision de l'OACI avait décidé, vu l'atteinte à la portée des gens, de la liberté, etc., d'une dictature très autoritaire. Alors, l'OACI avait effectivement cloué au sol, sauf pour les avions, les vols intérieurs. On pourrait très bien faire ça, mais l'Iran étant une dictature qui a comme moyen de réplique à l'Occident qui veut mener, en se mettant le nez dans le pays, puis dire que j'avais pas le droit de développer le feu nucléaire, par exemple. Alors moi, pour vous punir, je vais décider de ne pas vous remettre les boîtes noires.
C'est une occasion, quand même, à mon sens, c'est un peu une occasion ratée de voir l'Occident sans tomber dans la colonisation puis l'ingérence internationale dans un pays, un producteur de pétrole ou tout ça. C'est une occasion ratée d'un concert de nations qui dit, bon là, ça va faire. Il y a quand même là, la Suède, l'Allemagne, la France. Il y a beaucoup de pays qui pourraient soutenir l'Ukraine et le Canada en disant, écoutez, ça va faire le niaisage, on veut les boîtes noires. C'est une occasion, je pense, d'un peu remettre dans le rang un pays qui, même selon sa diaspora ici au Canada, est en déroute.
Vous avez bien raison, mais vous savez fort bien que dans cet univers de charte de droit et d'abus, de charte d'avocats, les minorités mènent. Alors là, l'Iran peut très bien dire, oui, mais il y avait des éléments canadiens là-dedans qui sont des anciens Iraniens qui sont devenus des impurs. En vertu de notre religion, nous allons continuer le combat et par conséquent, on va vous faire de l'enquiquinade en vous remettant pas les boîtes noires.
Bon.
La religion avant toute chose.
Incroyable. Bon, ben écoutez, M. Proulx, merci beaucoup pour votre opinion. Vous êtes certainement politiquement incorrect. On revient après la pause. Merci.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
Cette semaine, José Legault a émis un mot sur l'incroyable affaire qui s'est passée aux États-Unis. Aux États-Unis, on les appelle les « silence breakers », celles qui brisent le silence. Elle parlait évidemment du scandale autour de Harvey Weinstein. Et dans ce mot, elle évoquait à quel point, elle disait, je la cite ici, « Rappelons-nous de Nathalie Simard, jeune artiste de grand talent. Elle avait subi pendant des années les agressions sexuelles de son gérant, archi-connu et puissant à l'époque. » On parle évidemment de Guy Cloutier. Et on a l'incroyable chance d'avoir Mme Nathalie Simard, au bout du fil. Bonjour, Mme Simard.
Bon matin, M. Nantel. Vous allez bien?
Oui, je vais bien. Et vous, vous avez un ton de voix réjoui?
Ben oui, ils font. La vie est belle.
Ben, je dois d'abord un gigantesque merci de participer à l'émission parce que, comme le disait Mme Legault, vous avez été certainement la sonneuse d'alerte au Québec sur ça, malgré tous les sévices que vous avez vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être soutenu par plus de gens?
Ah, c'est clair, tellement. Ça a tellement évolué en 15 ans. Vous savez, ça a fait 15 ans le 13 février officiellement et que j'ai dénoncé, que j'ai libéré la parole. Mm-hmm. Et c'est clair qu'il y a eu une évolution parce que toutes ces années-là, c'est bien sûr, bon, il y a une dénonciation, ça c'est une étape, mais il y a l'après-dénonciation où ça a été véritablement une guerre. Là, je me suis sentie attaquée de part et d'autre, mm-hmm. bien plus souvent qu'à mon tour. Gros manque de compréhension, donc manque de sensibilisation, manque de prévention. Et c'est ce que je fais actuellement dans ma vie à travers les spectacles. Je donne des conférences justement pour éveiller les consciences autour de moi. Et le résultat, on le voit là. Actuellement, tout ce qui se passe, même depuis 2017 avec le mouvement hashtag MeToo, mm-hmm. les choses ont tellement grandi, évolué à grands pas. Et ça, là, maudit que ça fait du bien de voir qu'enfin le gros bon sens s'élève, que les gens, que la société commence à dire là, c'est assez, on met notre pied à terre et c'est terminé. Et il est temps, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais que la honte change de camp. Ce n'est pas aux victimes d'avoir honte, mais bien aux agresseurs et aux abuseurs. Et tant qu'on libère pas la parole, qu'on ne brise pas le silence, eh bien, on donne le pouvoir à ces gens qui brisent des vies, à ces êtres ignobles qui osent abuser, soit mm-hmm. d'enfants ou de femmes. Alors, c'est important. Je veux dire, aujourd'hui, on est rendu en 2020. Ça, comme je le dis, ça brise des vies. Souvent, on nous appelle les morts vivants parce que c'est très difficile de se sortir de tout ça. Et c'est toujours aussi très compliqué quand on arrive devant la cour. C'est la parole contre notre parole contre l'agresseur et ça prend plusieurs années et ça s'explique pour dénoncer. Mais maintenant, aujourd'hui, on comprend que, bon, avec le mouvement hashtag moi aussi qui a pris une place très importante mondialement parlant, mm-hmm. C'est très encourageant, mais quand on arrive devant la justice, c'est toujours plus difficile, mais c'est important de dénoncer sur le champ. On se conseillera toujours ça. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup moins tabou. Alors, c'est plus facile de briser le silence et d'aller chercher de l'aide et d'utiliser toutes les ressources qui sont en place, dont la trousse médico-légale. Lorsqu'une femme est agressée, mm-hmm. faut pas se changer, faut pas se laver, faut s'en aller directement à l'hôpital, appeler les policiers et rentrer dans ce système de justice qui est parfois pas trop évident à comprendre et à suivre. Mais cela dit, aussi de ce côté-là, on voit qu'il y a beaucoup d'avancées. On voit que c'est très positif. On voit Véronique Yvon aussi qui prend place dans toute cette histoire. La ministre de la Justice actuelle aussi. Alors, on espère juste quand même que ça aille davantage plus rapidement que ça l'a été au cours des dernières années.
Madame Simard, vous êtes tellement inspirante, puis j'allais utiliser le mot résiliente parce que c'est ça le mot qu'il faudrait utiliser, mais on l'entend tellement souvent qu'on l'a galvaudé. Vous avez réussi à ressortir, à rejaillir dans cette histoire et en devenir une agente de communication pour sortir du silence, parce que tout à l'heure vous évoquiez le silence et c'est certainement ce qui a été le plus dur de vivre tout ça dans le silence. Aujourd'hui, vous prenez votre revanche, puis vous en parlez, puis vous nommez l'agresseur, vous nommez Guy Cloutier, vous nommez tous les Guy Cloutier de ce monde.
Ah ben, c'est important. Parce qu'on a juste une vie à vivre. Hein. Ce qu'on sache, là, on n'a pas 10. Mm-hmm. On n'est pas des chats. et je trouve qu'on mérite de le bonheur. On mérite de vivre en paix, de vivre sans peur. Moi, j'ai vécu 25 années et même par la suite, je pourrais dire plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Mais je peux dire que j'ai vécu au moins là, 35, 40 ans là, dans la peur, dans la honte, la culpabilité, la peur d'être jugé, la peur de faire un pas dans la vie, un pas devant l'autre. Et ça, l'être humain en soi n'a pas le droit de vivre ça. On ne devrait jamais se donner le droit de vivre dans cet état d'âme, dans cet état d'esprit, parce que c'est très difficile par la suite. Tu sais, je veux dire, d'avancer dans une société dans laquelle on vit aujourd'hui avec un aussi lourd secret. Alors, pour moi, libérer la parole, briser le silence, c'est d'une importance capitale, c'est santé. Et on doit donner cet exemple-là aussi pour la future génération, parce qu'on veut pas que la future génération qui va nous succéder vive ce genre de crime odieux. Il faut le rappeler que il fait partie d'un des trois crimes les plus graves de notre société.
Absolument.
Alors, c'est important de prendre conscience de ça, de l'importance, parce que avec les répercussions, la honte, la rage, la culpabilité, on peut pas grandir et s'accomplir sainement. Il faut être très fort, il faut être fait fort. Mais aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a tellement d'aides qui existent pour se rebâtir, se reconstruire. Il y a des gens comme les CALACS, les CAVAC, les centres d'aide pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Vous savez comment ces femmes sont outillées. Et il y a de l'aide aussi pour les hommes qui ont besoin d'aide. Il y a un site Internet, d'ailleurs, on peut aller googler « À cœur d'homme » où ils regroupent plusieurs centres d'aide pour les hommes qui désirent justement se libérer de la violence ou désirent avoir de l'aide pour dénoncer.
Reconnaître qu'ils ont un problème. Parce que on ne peut... votre parole semble libératrice pour vous, puis elle l'est certainement pour tout le monde qui vit ça dans leur intimité, puis dans leur sentiment de honte qu'ils ne devraient tellement pas vivre. Et en même temps, je vous écoute, puis je me dis qu'il faut avoir faire un cheminement incroyable pour se rendre à être capable d'en parler comme ça, parce qu'on efface pas ce qui s'est produit. Je vous ai déjà entendu raconter que quand vous passiez géographiquement près des lieux où ça s'est produit, vous avez encore des frissons.
Ah, j'y pense encore. Et c'est clair parce que, tu sais, quand on dénonce, quand on était 25 années dans le silence, qu'on décide de dénoncer, là, la crème remonte sur le dessus après ça. On est habitué d'en renflouer ce secret-là. Mais à un moment donné, ça monte. Un coup, quand tu as parlé, là, c'est terminé. C'est comme on peut plus arrêter rien. C'est un processus qui se fait naturellement dans le corps, dans le psychologique. Et là, tout revient et ça s'amplifie au fur et à mesure que les années avancent. Encore plus.
Vous avez fait allusion. Oh, pardon, je vous ai coupé. Pardonnez-moi.
Non, ça va. C'est que ça s'amplifie avec les années. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'aide. Tu sais, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Moi, j'en ai consulté, puis ça me fait du bien. Puis pas parce qu'on va chercher de l'aide qu'on est des fous ou des folles.
Ben non, vous avez tellement raison. Le soutien qui est amené amène qu'on parle beaucoup plus de la cause. Et j'aurais voulu vous poser cette question. On parle d'agression sexuelle, bien sûr, mais on parle de violence conjugale. Est-ce que c'est un amalgame qui pourrait blesser certaines victimes? Je lisais dans Le Devoir en fin de semaine passée les témoignages, entre autres, de Anna Quinn. Je ne sais pas si vous avez vu son vidéo où elle expliquait la complexité. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, à quel point le système judiciaire peut être aride et difficile, puis nous force à revivre des choses qu'on voudrait oublier. Est-ce que l'amalgame de ces différents crimes-là est problématique ou, au contraire, rassemblons les ressources, rassemblons la discussion autour de ces injustices que vivent trop souvent les femmes à l'extrême majorité, là, à 95% des cas?
Ah ben c'est sûr que là, si on parle du système de justice, c'est très difficile. Tout le temps rappeler, tu sais, je veux dire, on va prendre un dossier qui est très, très d'actualité, là, celui de le dossier de Salvaille. Là. Mm-hmm. Je veux dire, la victime actuellement vit des moments épouvantables. Là. C'est comme... tu sais, quand on a passé à travers ce système-là, on comprend la game. Et actuellement, il y a une réelle game qui se joue. Et c'est vraiment très, très difficile pour la victime de passer à travers ce processus judiciaire. Cela dit, je suis convaincue que cette personne-là est très, très bien entourée. Mais tu sais, on lui souhaite toutes les chances possibles. Mais le système de justice doit évoluer parce que ça n'a pas de bon sens. Mais surtout aussi, plus on dénonce rapidement suite à une agression, plus on a des chances de ne pas avoir à passer dans le système de justice. Parce que si on vit une agression sexuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut tout de suite téléphoner à la police, se rendre à l'hôpital, il y a la trousse médico-légale, il prélève tout. Et c'est ça qui peut faire foi de tout aujourd'hui, l'ADN. Et ça je veux dire, ce n'est pas... ça passe à tout. Je veux dire, le juge prend ça très, très au sérieux. C'est ce qui peut faire foi de tout, faire toute la différence et éviter ce long processus que plusieurs victimes passent au travers actuellement. Alors, c'est important aujourd'hui. Moi, ce que je veux passer comme message, c'est il faut arrêter d'attendre des années et des années. On peut pas vivre avec ce lourd secret, ce crime odieux qui ne nous appartient pas. Il faut se le rappeler, parce que les abuseurs, ils sont très forts, c'est des grands manipulateurs, puis ils sont là pour nous dire, si tu parles, tu n'auras plus de cash, je t'aiderai plus, t'auras plus de job. Et c'est ça aussi que le message que les femmes de hashtag moi aussi, toutes les Américaines, se sont donné la main pour créer une chaîne de solidarité pour dire, hey, là, c'est assez, là. Bon, le système de justice, on comprend qu'il est compliqué. Maintenant, passons par l'Internet et on va, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Et on regarde le résultat. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on parle d'un avancement vraiment très positif qui fait énormément de bien et qui, enfin, si on parle d'une lumière au bout du tunnel, ben moi, je parle d'un méga spot au bout du tunnel.
Quelle ambassadrice! Quelle ambassadrice vous êtes, puis quelle championne du changement. Je vous félicite, je vous remercie. Puis d'ailleurs, je m'en voudrais de pas toucher moi avec vous là du projet Je veux vivre que vous avez fait. C'est un album, c'est un livre, puis c'est une conférence que vous donnez. Est-ce que vous donnez ça dans les écoles? Comment ça fonctionne, votre tournée?
Écoute, partout. Écoutez, c'est pour ceux qui veulent avoir la conférence, c'est vraiment une conférence qui traite toutes les formes de violence. On parle de pédophilie, d'inceste, on parle d'intimidation, de violence amoureuse, de violence conjugale et de violence aussi faite aux aînés. Donc, on traite toutes les sphères d'âge et toutes les sphères de violence dans lesquelles on peut vivre. Et c'est une conférence qui est vraiment préventive, éducatrice, qui est là pour sensibiliser la population. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, là, moi, j'ai commencé, ça fait peut-être une trentaine de conférences qu'on donne depuis l'année passée. Et on a commencé avec 20 personnes dans la salle, 30 personnes. Aujourd'hui, M. Nantel, on est rendu à 200, 300, et j'en ai donné une la semaine dernière, on était 500 personnes. Et il y avait des hommes dans tout ça. Et je trouve que l'avancement, on le vit. On est là sur le terrain, c'est vraiment extraordinaire. Alors, s'il y en a, parce que dans les entreprises aussi, je veux dire, ce fléau d'agression sexuelle, de violence conjugale, ça se retrouve, on parle, là, on voit le show business parce que c'est un métier qui est public, qui est, mais ça se passe dans tous les niveaux de notre société, tous les milieux de travail, partout dans notre société. Alors, c'est important. Puis, si vous avez envie d'avoir la conférence, on a une page Facebook, Je veux vivre. Vous pouvez aller là, nous téléphoner ou envoyer un message. Pas téléphoner, mais envoyer un message en privé. Si vous avez un intérêt, mais on peut se déplacer partout, dans les écoles, dans les centres de personnes âgées. Partout, on va partout.
Madame Nathalie Simard, on vous a connue pour votre voix et vous l'avez gardée de toute évidence. Je vous félicite, puis on va se faire plaisir, on va se laisser en écoutant un extrait de votre chanson-titre de l'album puis la tournée Je veux vivre. Madame Simard, merci énormément pour votre action sociale. Merci.
Merci à vous, M. Nantel, de collaborer aussi, de nous permettre de libérer notre parole. Merci infiniment.
Merci à vous.
J'ai tout laissé de le temps d'y voir plus clair entre nous deux. Aller-retour dans mon enfance, fragile innocence. Lentement, une femme est apparue. Je veux vivre
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Il y a tellement de bonnes raisons d'être fier d'être Québécois, que ce soit l'aérospatial ou l'action que fait actuellement Nathalie Simard, qui est exceptionnelle. Mais on peut aussi être très fier du débat sur l'aide médicale à mourir que nous avons devancé en Amérique du Nord, certainement, et au Canada. Et je peux dire, en tout cas, qu'à Ottawa, souvent, les politiciens regardaient ce qui se passait au Québec, puis ils se disaient qu'ils sont bien flyés. Les autres, ils discutent d'un sujet pas mal audacieux. Et on l'a fait dans une collégialité exceptionnelle. On a réussi à au-delà des barrières partisane à traiter de ça sous la belle gouverne de Véronique Yvon. Et aujourd'hui, il y a des ajustements à faire relativement à des jugements qui ont été donnés et les lois doivent être modifiées. Le Québec a fait ses modifications. On est en attente de modifications du côté du Canada. Et dans Le Devoir, aujourd'hui, on pouvait lire que le Collège des médecins veut que les super infirmières pratiquent l'aide médicale à mourir. Et pour en parler ce matin, on est en ligne avec le docteur Alain Nault, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Bonjour, M. Nault.
Bonjour, M. Nantel.
Devrais-je dire Dr. No? Vous avez dû l'entendre souvent, ce gag.
Ah oh, oui, oui, effectivement.
Mais on rit, mais le sujet est tellement grave et tellement touche tellement de gens, parce que de plus en plus de gens constatent la morbidité de certaines situations de santé. Et vous êtes d'avis qu'on pourrait impliquer davantage les super-infirmières dans le contexte?
Absolument, il faut le faire. Écoutez, le Québec est la seule province où les super-infirmières, on va les appeler les IPS, là, n'ont pas le droit d'évaluer et de prodiguer l'aide médicale à mourir. Depuis l'adoption de la loi fédérale en juin 2015, c'est permis partout ailleurs au Canada. Donc, il n'y a aucune raison, surtout dans le contexte actuel, hein, comme vous le savez, où on est en train, avec le projet de loi 43, de revoir la pratique IPS et de lever toutes les barrières que les IPS avaient au Québec. La moindre des choses, c'est que on leur permette, comme dans le reste du Canada, de participer à l'aide médicale à mourir.
Mm-hmm. Mais je lisais dans cet article que du côté Mme Danny, qui est professeure de droit à l'Université de Dalhousie à Halifax, se questionnait, disait qu'il y avait comme de restreindre l'accès à la procédure était plus difficile. Comment on arrive à la conclusion qu'il pourrait y avoir une mort prévisible dans un cas de maladie mentale? Parce que c'est ce qu'elle évoquait, c'est un des os là, qu'il y a dans la soupe actuellement.
Bon, c'est-à-dire que le ce qui est rapporté de Maître Darny, qui est une éminente juriste là, qui est très impliquée dans toutes les questions d'aide médicale à mourir depuis plusieurs années, c'est que dans le projet de loi fédéral qui a été déposé cette semaine, le projet C7, qui vise à modifier le code criminel, on prend la peine d'exclure la maladie mentale comme possibilité de demander l'aide médicale à mourir. Et ce que Maître Darny vient dire, c'est que si on vise de façon très spécifique les gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui par ailleurs répondent à tous les autres critères, c'est probablement anticonstitutionnel et ça risque d'être attaqué si c'est adopté tel quel.
On est dans une précision là, de libellé de texte, dans la mesure où il ne faudrait pas l'exclure et juste pas le mentionner parce que ça a créé tout un remous de discussion sur le fait que, bon, on évoquait que la maladie mentale, parce que pour beaucoup de gens, un des symptômes commun d'une maladie mentale, c'est entre autres de vouloir mourir, qu'il fallait pas céder le pas. Ouais. Ça a dû être sujet à de nombreuses discussions dans le cercle des intervenants dans ce domaine.
Oui, absolument. Puis c'est un sujet très émotif hein, et qui est très mal compris. C'est sûr que quand on parle de santé mentale, tout le monde se sent interpellé là parce que c'est très fréquent. On connaît tous quelqu'un qui a eu des problèmes de santé mentale. Et là, quand on associe ça à aide médicale à mourir, ben c'est sûr que ça fait un mélange un peu explosif là. Mais il faut bien expliquer ce que ça représente et faut considérer parce qu'il y a d'autres pays qui le permettent déjà depuis fort longtemps là. Ce sont des mesures exceptionnelles et l'immense majorité des gens qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas admissible à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est très balisé et le gouvernement ne l'a pas exclu. Ce que le gouvernement nous dit, c'est bien, on ne le met pas dans le projet de loi actuel, mais dès cet été, on va entamer les discussions pour éventuellement prendre position sur ce sujet-là. Et il s'agit de mettre des bonnes mesures de sauvegarde en place, tout simplement. Là.
Mais dites-moi plus, M. No, comment on pourrait restreindre ça quand on ouvre la porte aux maladies mentales?
Ben, on peut prendre exemple sur les pays qui le font déjà, comme la Belgique et les Pays-Bas. C'est-à-dire que tous les autres critères demeurent. Hein. C'est pas juste d'avoir une maladie mentale, là, mais c'est d'avoir une maladie grave et incurable. C'est d'avoir un déclin avancé irréversible de ses capacités. C'est d'avoir une aptitude à consentir. Et c'est un élément extrêmement important quand on parle de santé mentale. Si vous êtes en psychose, si vous êtes en dépression majeure, aiguë, vous n'êtes pas admissible parce que vous n'êtes pas apte à consentir. Aux deux médecins qui doivent donner un avis, on doit, à mon avis, ajouter l'opinion d'un psychiatre expert du domaine. On doit donner une période de temps d'attente pour que le malade manifeste clairement son intention. Donc, ce que je vous dis, c'est que la grande majorité des gens qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas admissibles. Maintenant, la souffrance, la grande souffrance chez des malades qui ont des problèmes de santé mentale incurables, ça existe aussi.
Bien sûr.
Et il faut pas nier ça, là. La souffrance, ce n'est pas que physique, ça peut être psychique aussi. Et les gens qui n'ont plus aucune qualité de vie, vous savez, qui sont passés par tous les traitements possibles, par les électrochocs, qui sont dans un état végétatif, mais qui sont encore aptes à consentir et qui disent « ma vie ne fait plus de sens », ben au lieu de les laisser se suicider, comme on voit assez souvent...
Ouais. C'est l'expression il y a un galvaudage, là. Parce que vous avez comme cité l'opinion publique, se laisser se suicider, c'est là qu'est la pente glissante, là.
Ben, c'est-à-dire que se suicider parce qu'on est dans un état mental où on n'est pas apte à consentir, c'est une chose, mais choisir concrètement de se suicider parce qu'on n'en peut plus de tolérer cette souffrance-là, ça, ce n'est pas en lien avec la maladie mentale, là, c'est en lien avec la souffrance. Alors, vous voyez, les nuances sont j'en conviens, là, ténues, là, mais il y a quand même une différence importante. Et dans les pays qui le pratiquent, là, faut considérer que les aides médicales à mourir pour cause de santé mentale, là, c'est moins que 0,3% de toutes les aides médicales à mourir qui sont administrées. Bon. Alors, l'aide médicale à mourir est déjà exceptionnelle. Pour les cas de santé mentale, c'est encore plus exceptionnel.
Je vous remercie d'avoir amené ce pourcentage-là parce qu'effectivement, on discute d'un sujet puis on passe beaucoup de temps sur des cas marginaux, alors que la vaste majorité bénéficierait certainement de pouvoir bénéficier de ces soins-là. J'aimerais justement vous entendre là-dessus, parce que concrètement, pour les gens qui nous écoutent, quand on parle d'aide médicale, on a tous, là aujourd'hui, on vit tous le vieillissement de la population, et on a tous de nos aînés qui, peu à peu, l'état se diminue, et les cas d'Alzheimer qui deviennent de plus en plus communs. Comment est-ce que, pour une famille qui voit l'état cognitif de ses aînés diminuer, comment est-ce qu'on doit entrevoir cette réflexion là par rapport à l'aide médicale à mourir?
Ben, écoutez, moi, je pense qu'il faut d'abord bien comprendre que l'aide médicale à mourir, ce n'est pas fait pour soulager des proches. Hein? C'est fait pour soulager un malade lui-même qui prend sa décision de façon tout à fait libre et éclairée, sans contrainte, en toute connaissance des alternatives quand il y en a. Donc, c'est une question de souffrance personnelle, de droit à l'autodétermination de l'individu. Et partant de là, ben, les proches, évidemment, peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord avec la décision de l'individu, mais ils ont l'obligation de la respecter. Ça, c'est le principe même de l'aide médicale à mourir qui est enchâssée dans les lois. Donc, c'est une question personnelle. Et il ne s'agit pas de faire la promotion de l'aide médicale à mourir. Hein. Moi, j'en parle beaucoup. Jamais vous m'entendrez dire que c'est la meilleure façon de mourir. Ce n'est pas à moi de le décider. C'est à chaque individu. Ça demeure un soin exceptionnel. Au Québec, là, actuellement, et dans le reste du Canada aussi, là, les décès par aide médicale à mourir, ça représente 1,9% de tous les décès sur une base annuelle.
Ouais.
Dans tous les pays qui le pratiquent depuis longtemps, c'est 2 à 4% des décès. Ça demeure très exceptionnel. Mais pour les gens qui envisagent cette option, ben, le monde entier est dans cette possibilité-là pour eux d'y avoir recours. Donc, c'est vraiment une question d'autodétermination. Et pour avoir vu de nombreux malades, je peux vous dire que personne qui prend cette décision-là sur un coup de tête. Et c'est le fruit d'une longue réflexion, d'une souffrance continuelle, persistante, à la fois habituellement physique et psychique, qui les habite à chaque seconde. Et pour eux, de recevoir l'aide médicale à mourir, là, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas anxiogène, c'est une délivrance. C'est qu'au lieu de dire, ben, comme on entend depuis longtemps, là, si le bon Dieu peut venir me chercher, là, ben, ces gens-là se disent, enfin, je sais que telle journée, telle heure, je serai délivré de cette souffrance. Alors, c'est vraiment une question personnelle. Et je pense qu'il faut rencontrer un malade qui a fait une demande d'aide médicale à mourir pour bien comprendre ce que ça représente pour eux, là, l'importance que ça prend, là, pour vraiment, là, soulager une souffrance qu'ils ne veulent plus tolérer. Dans le cas des maladies d'Alzheimer, bon, le gouvernement provincial a déjà entamé les démarches visant à éventuellement le mettre en place. Il y a une première journée, là, d'un colloque provincial qui a eu lieu le 27 janvier dernier. Le gouvernement fédéral nous dit, à partir de cet été, on va réfléchir à la question. Ça demeure encore un choix personnel. C'est une option. Et il y a des gens qui vont dire, ben, écoutez, moi, j'ai appris que j'avais un diagnostic de maladie d'Alzheimer. On sait tous ce que c'est. On sait tous comment ça évolue. On sait tous comment ça se termine. Et il y a des gens qui vont dire, ben, moi, je vais vivre ça jusqu'à la fin. Parfait. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y en a d'autres qui vont dire, ben écoutez, moi, à partir du moment où, je vous donne des exemples, à partir du moment où je ne reconnaîtrai plus mes proches depuis au moins 6 mois, à partir du moment où, par exemple, je serai alité complètement, je serai totalement dépendant des autres pour tous mes soins de base et d'hygiène, où j'aurai des comportements agressifs envers tout mon entourage, je considérerai que ma vie n'aura plus de dignité rendue à ce moment, et je vous permets à l'avance de rendu à cette étape, m'administrer l'aide médicale à mourir. Alors, je pense que c'est dans une perspective d'autodétermination et de choix, de possibilité, qu'il faut l'envisager. Et on a tendance parfois à associer l'aide médicale à mourir avec le manque de soins et de ressources. Évidemment, c'est pas un ou l'autre, là, c'est un et l'autre. Il faut que toutes les ressources soient accessibles et disponibles, mais il faut pas en même temps nier la possibilité à certaines personnes de faire un choix de fin de vie qui correspond à leurs propres valeurs et leurs propres convictions.
Quand on vous écoute, M. Nau, on a l'impression que ça tombe sous le sens et que c'est ça aurait toujours dû être comme ça. Comment c'était avant qu'on en parle ouvertement, il y a 10 ans, disons, vous étiez face à un patient qui était en phase terminale puis qui voulait terminer. Qu'est-ce que vous faisiez?
Bien, vous savez, moi, je suis médecin de famille et médecin de soins palliatifs. Ça fait 35 ans que je fais des soins palliatifs. Et des demandes d'euthanasie, là, ça a toujours existé. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y en a toujours eu. Ben, la réponse qu'on était obligé de faire à ce moment-là, c'est de dire, ben, écoutez, la loi l'interdit. Malheureusement, je comprends votre demande, je comprends votre souffrance, j'aimerais bien pouvoir vous accompagner, mais légalement, je ne peux pas le faire parce que c'est interdit par le code criminel. Donc, on discutait avec le malade des autres alternatives. Ceci étant, faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Il y a des actes d'euthanasie qui se sont toujours faits de façon illégale dans les établissements. Je pense qu'il y a personne qui va tomber en bas de sa chaise en disant ça, mais évidemment, c'était fait de façon détournée parce que ce n'était pas permis. Et l'autre chose, c'est que le suicide chez ces grands malades qui n'en pouvaient plus, ben, ça a toujours existé aussi. Hein.
Donc,
on a vu beaucoup de malades aller mourir en Suisse depuis de nombreuses années. Ouais.
Donc, dans tous les cas des patients qui ont bénéficié de l'aide médicale à mourir, tous ces gens-là ont évité ce calvaire que vous venez de nous décrire des années précédentes.
Absolument. Et c'est pour ça qu'on a mis en place l'aide médicale à mourir. C'est pour éviter de laisser tous ces grands malades, parce que nous, sur le terrain, là, on les connaît depuis toujours, ces grands malades-là. Mmh. On les rencontre, on les accompagne. Mmh. Alors, c'est pour éviter de les laisser à eux-mêmes avec leur souffrance intolérable ou de leur laisser... Le seul choix qu'ils avaient, c'était de suicider ou d'aller mourir en Suisse. Il y avait 40 000 $. Ils étaient prêts à aller mourir loin de leurs proches. Là. Alors, c'est pour redonner de la dignité, de l'humanité à ces gens-là qui étaient condamnés, pour qui la mort était de toute façon inévitable. C'était pas une question de vivre ou de mourir, là. C'était une question de quelle façon est-ce que ça va se passer et quand ça va se passer et est-ce que je vais être avec mes proches ou je vais être tout seul dans mon garage à m'intoxiquer au monoxyde de carbone.
Docteur Nau, en terminant, j'ouvrais ce segment d'entrevue avec vous en disant que on avait eu un débat sain au Québec. Est-ce que vous êtes dans cette situation bien précise? Est-ce que vous trouvez que c'est un exemple de bon travail des politiciens de façon non partisane dans le bien commun?
Absolument. Écoutez, le débat là, de la commission Mourir dans la dignité, ça a été salué par tout le monde comme étant un exercice démocratique, rassembleur, où tout le monde a pu se faire entendre, qui a rallié la société. Le Québec est vraiment, là, faut être fier de ça, là, une figure de proue sur tous ces enjeux-là de société, particulièrement sur l'aide médicale à mourir. Le Québec continue de faire école à travers le Canada et le reste de l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Le fédéral s'est inspiré clairement de notre expérience au Québec dans les modifications qui ont été présentées cette semaine. Et si vous avez vu les journaux dernièrement, on apprenait hier que l'Allemagne vient de déclarer l'interdiction de l'aide médicale à mourir inconstitutionnelle. L'Espagne a fait la même chose il n'y a pas longtemps. L'Italie réfléchit à mettre ça en place actuellement. Alors, je pense que le Québec est un exemple, non seulement pour le reste du Canada et l'Amérique du Nord, mais pour le monde entier.
Merci, Docteur Nau. On peut être fier quand c'est le cas. Puis je vous remercie beaucoup de ce témoignage qui nous a beaucoup éclairé. Alain Nau, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. On vous revient après la pause à Politiquement Incorrect.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect.
Je faisais allusion plus tôt aujourd'hui au propos de Michael Fortier sur l'aérospatiale, l'aéronautique, sur le rôle qu'ont joué les gouvernements fédéraux et provinciaux, en fait à Québec et à Ottawa, sur le soutien à cette industrie-là. Puis il évoquait à quel point il y a un beau leg qui vient de ce soutien d'État, contrairement à la croyance populaire qu'on a mis plein d'argent dans Bombardier. Puis je voulais échanger avec ça avec un grand spécialiste de la question, puis un homme très résolument positif, M. Mehran Ebrahimi, directeur du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique de l'UQAM. Monsieur Ebrahimi, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Je fais allusion au fait que vous êtes un homme éminemment positif parce que vous avez, j'ai eu la chance d'être avec vous l'an passé dans un sommet qu'avait organisé Unifor au niveau de l'aérospatiale. Puis je trouvais que ça avait galvanisé le moral de tout le monde. Est-ce qu'on peut factuellement dire que malgré tout ce que tout le monde peut en dire, l'industrie aérospatiale au Québec va très bien?
Oui. En fait, ce qui se passe, vous avez tout à fait raison, c'est un petit peu les déboires de Bombardier ces derniers temps qui ont, si vous voulez, jeté un petit peu de froid sur notre enthousiasme. Mais en fait, quand on regarde en détail l'infrastructure de notre grappe industrielle, il faut savoir que c'est notre première source de revenus au Canada après les ressources premières. Autrement dit, c'est notre première source de revenus. À peu près 12 à 13 milliards de dollars de revenus viennent chaque année de l'aérospatiale et à peu près 90% de ce montant-là est dans l'exportation. Autrement dit, ça fait rentrer des devises chez nous qui est très, très appréciable.
Bien sûr.
D'un autre côté, on a des emplois très intéressants, des emplois dont le salaire moyen est très élevé, qui sont à peu près, si on prend l'ensemble, c'est 80 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Si on prend Montréal, par exemple, un emploi sur 70 à peu près, c'est dans le secteur aéronautique. Mmh. Donc, ce qui fait que on a une grappe industrielle qui est relativement solide. Et je vous dirais que avec l'arrivée de Airbus, même si au départ on l'a un peu mal pris émotivement, on les a considérés un peu comme les envahisseurs qui venaient de prendre notre cerise et tout ça, l'arrivée de Airbus non seulement n'a pas créé un vide suite aux sessions de programme de cerise à Airbus, mais au contraire, ça fait venir un géant ici qui a stimulé notre chaîne d'approvisionnement et qui a créé des emplois supplémentaires. Et eux, ils ont, étant donné qu'on a un savoir-faire très important ici au Québec, on a une créativité très élevée au Québec qui nous est propre, eux, ils ont maintenant, non seulement pour le projet A220, mais aussi pour les autres programmes de Airbus, ils ont des projets pour Montréal. Donc, ce qui fait que quand on met tout ça, même quand on a vendu CRJ, par exemple, à Mitsubishi a l'intention de s'installer à Montréal. Mitsubishi aussi, c'est un géant.
C'est ça.
Donc, quand on met tout ça ensemble, les uns à côté des autres, on dit, notre grappe se porte bien.
Assez
bien.
Est-ce que ces grandes industries sont sensibles à l'ambiance générale? Par exemple, je peux vous dire que moi, étant de Longueuil-Saint-Hubert, j'ai souvent eu l'impression que nos fleurons d'aérospatial du côté de la Rive-Sud, parce qu'il y en a à Montréal, puis il y en a aussi de la Rive-Nord, de Laval et de Mirabel, mais sur la Rive-Sud, j'ai souvent eu l'impression qu'ils étaient déçus de voir la mauvaise presse, le manque d'enthousiasme de la population.
Écoutez, c'est là le problème. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour quelle raison, il y a une espèce de amour et de haine avec l'aéronautique, avec Bombardier. On ne réalise pas à quel point c'est profitable pour notre économie. On ne réalise pas à même Bombardier. Écoutez, prenons le cas de Bombardier. On a beaucoup tapé sur Bombardier, et parfois à juste titre, le salaire de Alain Bellemare et tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais si on regarde, on a fait une étude, nous, depuis 1986, quand Bombardier est entré dans l'aéronautique. L'ensemble des prêts, des subventions et tout ça qu'on a accordé à Bombardier, ça monte à peu près à 2,7 milliards de dollars. Par contre, pendant la même période, la contribution de Bombardier à l'assiette fiscale du pays, en termes d'impôt sur les revenus, sur les profits, en termes d'impôt sur le salaire, ça a été 18 milliards de dollars.
Exact.
Pendant la même période. Voilà. Donc ça, c'est l'argent, on a créé la richesse et cet argent-là est entré dans l'économie. Et puis, il y a une chose que les gens ignorent, c'est que, vous savez, pour développer des technologies nouvelles dans l'aéronautique, ce que nous faisons très bien, la preuve des moteurs que Pratt & Whitney met sur le marché et tout ça, ça prend des investissements énormes. Ça prend, on parle des milliards d'investissements et souvent, ces investissements-là sont incertains. Au bout de 2, 3, 4 ans, on se rend compte qu'on a mis 1 milliard, 2 milliards et on n'obtient pas les résultats. Et c'est pour ça que partout à travers le monde, les États investissent et contribue à supporter l'aéronautique.
C'est ça.
Alors, on a fait une étude au sein de notre groupe et on s'est rendu compte que toute proportion gardée, le Canada supporte moins son secteur aéronautique que le Maroc. Alors, vous voyez, donc, ça montre à quel point nous, on veut le beurre et l'argent.
Ben, c'est-à-dire que vous l'avez nommé tout à l'heure, M. Ibrahimi, c'est-à-dire que le parfum de scandale de voir les paiements, l'incompréhension, en tout cas, que les citoyens ont devant les primes qui sont versées aux engrais administrateurs, vient créer ce sentiment d'injustice, mais il ne faut pas oublier qu'en bout de ligne, le soutien de l'État, que vous l'avez mentionné tout à l'heure au moteur de Pratt & Whitney ou à Bombardier, ont amené quoi? Ben, deux produits qui changent la donne au niveau de l'aérospatial, au niveau de l'aéronautique et même au niveau environnemental, parce que les moteurs Pure Power de Pratt & Whitney sont des moteurs plus silencieux et plus écologiques, moins énergivores aussi.
Tout à fait. Écoutez, je vais tout à fait dans votre sens et je dirais que même ici, grâce à nous, nous avons réussi à modifier, à faire bouger les standards en matière donc de protection de l'environnement dans le domaine de l'aviation.
Absolument.
Parce que nous avons été tellement bons avec Cisoris et Global 7500 qu'on a réussi à imposer même aux géants Airbus et Boeing de définir en termes de l'émission des polluants. Et donc, nous avons redéfini ça. Et ça a été extraordinaire. Et ça n'arrive pas comme ça. Ça arrive parce qu'on a une expertise, on a une créativité qui est très particulière au Québec. Et ça, on est très fort là-dedans. Donc, on réussit à faire des choses extraordinaires. Juste, si vous le permettez, je veux des choses à part en perspective.
Je vous le permets. Certains, c'est des bonnes nouvelles aéronautiques. On les veut.
Regardez dans tous les pays où l'aéronautique est très fort. Prenons le cas des États-Unis, où seulement Boeing, en 2018, a reçu 24 milliards de dollars de l'aide du gouvernement fédéral. Prenons le cas de l'Europe, où ils ont l'Airbus et ils touchent jusqu'à plusieurs dizaines de milliards d'euros en soutien au programme de l'aéronautique. Prenez le cas de la Chine, leur nouveau programme d'avion C-919, qui n'est même pas encore commercialisé, ça a coûté 10 milliards de dollars, ça a été entièrement payé par le gouvernement chinois, et ils ont obligé toutes les compagnies chinoises de commander ces avions. Prenez le cas du Brésil. Toutes ces compagnies dans le domaine de l'aéronautique sont liées à des puissances économiques. Nous ne sommes pas une puissance économique. En plus, deuxièmement, c'est que tous ces pays dont je viens de nommer, toutes ces compagnies-là sont dans le domaine de la défense. Par exemple, Airbus va chercher 40% de ses revenus.
Ah, c'est sûr, c'est le soutien de base de cette industrie-là, c'est le militaire qui est un...
Voilà.
Ben oui.
Voilà.
Dites-moi, j'aurais voulu vous entendre...
Et nous, on l'a pas.
Oui, effectivement. Et donc, est-ce que de développer l'entretien des appareils Airbus 320, 320 Neo, donc c'est le 320, mais avec les moteurs Pure Power, si je ne me trompe pas, et l'ancien C-Series, le A220, est-ce que l'entretien de ces appareils-là au Québec, à Trois-Rivières, à Mirabel et pourquoi pas à Longueuil, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait soutenir?
Absolument, absolument. Pour une raison très simple. Regardez, nous avons un groupe industriel au niveau des fabricants, des composantes et des avions qui est très, très solide, qui est en place. Nous avons également un autre élément qui est très important, qu'il ne faut pas oublier à Montréal. Tous les sièges sociaux des institutions internationales dans l'aviation civile, que ce soit l'IATA, que ce soit l'OACI, que ce soit l'Association des aéroports, que ce soit l'Association des pilotes, tout est à Montréal. Donc, on a un autre pilier très, très important. On est reconnu mondialement pour cette expertise-là. Ce qu'on avait également avec AVO sous service technique d'Air Canada anciennement, dans le maintenance des avions, on était parmi les 5 meilleurs au monde. Avec malheureusement la tragédie d'AVO, on a perdu ça. Et aujourd'hui, en revenant ça, on va aller chercher ce troisième élément-là. Autrement dit, dans tout ce qui touche l'avion, nous avons une expertise de haut niveau qui consolide notre position au niveau international.
Vous avez... Monsieur Ibrahimi, vous avez mentionné Aveos. Je peux pas m'empêcher de vous faire rebondir sur le projet, d'ailleurs, du chef syndical des employés d'Aveos qui voulait partir une coopérative d'entretien du côté de Longueuil. Un projet qui devrait voir le jour, il me semble. Ça m'apparaît simple.
Oui, le gouvernement a accordé à peu près, je pense, 100 000 $ pour une étude de faisabilité à M. Poirier et puis son équipe. Mm-hmm. Et donc, le projet est viable parce qu'on a déjà donc les 45 avions et peut-être les options supplémentaires d'Air Canada. Et n'oublions quand même pas que Delta a commandé plus de 75 avions aux États-Unis. Et donc, si on va de l'avant avec une centre d'excellence, comme on a d'expertise de très haut niveau et comme ce...
Avec l'École nationale d'aérotechnique à Saint-Hubert, juste à côté, qui a même reçu un C-Series de M. Duer, le père du projet.
Oui, tout à fait. C'était là le jour où ils l'ont reçu. Donc, on pourrait faire une sorte d'excellence, c'est d'aller chercher ces avions-là, donc les avions américains, de telle taille, puis ceux qui seront commandés dans l'avenir, et d'en faire un projet. Et je pense que ce projet est vital, parce que il faut pas négliger, ou j'allais dire mépriser, la maintenance des avions, parce que c'est un domaine où les salaires sont très intéressants, les emplois sont très, très intéressants, et surtout, ça nous met en termes d'expertise et maîtrise des compétences dans ce domaine à un niveau inégalé. Donc ça, je pense qu'il faut tout faire et convaincre la population et le gouvernement et les acteurs qu'il faut aller vers ce projet-là.
Il y a de l'espace, autant à Mirabel qu'à Trois-Rivières, qu'à Saint-Hubert. Ben, Monsieur Ibrahimi, je vous remercie. Vous avez toujours un éclairage dynamique et enthousiaste là-dessus. Vous avez raison. Vous êtes un de nos beaux ambassadeurs de l'aérospatiale. Merci pour votre beau travail. Mehram Ibrahimi, directeur du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique à l'UQAM. Merci beaucoup. On revient tout à l'heure.
Politiquement incorrect.
Cube Radio. Autrement dit.
Ah, quel thème évocateur. Évocateur pour cette vieille personne que je suis qui écoutait cette série passionnément. X-Files qui a certainement révélé toute un fantasme très bien installé dans la population sur les extraterrestres, sur toutes différentes formes de contrôle sous-jacent en dessous du pouvoir officiel. X-Files, d'ailleurs, que je signale au passage, selon les critères, imaginez-vous, mon cher ami, des critères de contenu canadien, serait considéré comme du contenu canadien parce que c'est tourné à Vancouver. Ben écoutez, alors la voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Alexandre Moranville-Ouellet, le roi des théories du complot. Bon. Je vous écoute.
C'est trop bien, bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
En pleine forme. Écoute, je poursuivais dans ma grande lignée des théories du complot. On en a fait beaucoup avec Richard et là, journée spéciale, on est ensemble aujourd'hui.
Oui.
Je discutais un peu plus tôt avec mes anciens collègues de l'UQAM, du COCO, puis ils m'ont ramené une théorie que j'avais déjà lue, dont j'avais déjà parlé lorsque j'étais en radio étudiante, et ça m'est revenu sujet complètement fascinant, théorie du complot, qui est mal connu.
J'ai des frissons.
C'est celle des théories zoologiques israéliennes.
Oh.
Attention, bien étrange. Des théories qui sont liées, bien évidemment, là, à tout ce qui est théorie du complot sioniste, comme quoi l'État d'Israël, l'État juif, le projet de se créer un État indépendant est en fait un complot visant à dominer le monde. Bon, rien de nouveau, souvent lié à des théories d'extrême droite, antisémites, la base même du discours d'Adolf Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale et surtout avant. Mais il y a toutes sortes d'événements dans l'actualité qui ramènent un peu à ces origines-là. Puis c'est celle que Israël entraînerait des animaux pour aller espionner les pays arabes voisins dans le but ultime de les détruire.
Fait qu'on colonise avec quoi? Avec des iguanes puis des chats?
Oui, les chats, ça, je les ai pas vus encore, mais les iguanes, très certainement.
Non.
Tu es en plein dans le mille. Écoute, je te ramène, c'est un événement qui est arrivé il y a pas longtemps, février 2018, assez récemment. Il y a le gouvernement iranien a trouvé des caméléons puis des lézards dans des mines d'uranium qui ont commencé à exploiter. Et immédiatement, il y a des officiels, d'ailleurs un militaire qui est allé parler publiquement, disons de Hassan Firouzabadi, qui expliquait aux médias iraniens que, selon lui, mais la peau des lézards, c'est prouvé, attire les ondes radioactives et que grâce à cela, Israël utiliserait ces lézards-là, ces caméléons-là. Je savais même pas qu'il y avait des caméléons au Moyen-Orient.
Ben
les lancerait, les relâcherait dans la nature et attendrait que leur peau attire les rayonnements radioactifs, les mène jusque dans les mines d'uranium pour qu'ensuite Israël puisse les cibler et envisager des opérations contre eux. C'est très sérieux.
Et donc l'iguane en question ou le caméléon en question aurait pas juste sa grande langue qui fait chut. Mais non. Il y aurait aussi un petit capteur avec un GPS là, pour le localiser.
Mais écoute, c'est ce que les Iraniens prétendent. Ils prétendraient qu'il y aurait une puce sûrement dans les lézards. Ils n'ont rien amené concrètement, mais ils ont commencé à expliquer ça. Évidemment, ce que tous les biologistes ont démenti rapidement en expliquant que ça attire pas, dans tous les cas, ondes radioactives. Et que pourquoi un lézard qui a le sang froid, qui a besoin d'être au soleil, irait se terrer dans des cavernes humides, froides et sombres? Ça fait aucun sens. Dans tous les cas, déjà en 2018...
Mais il est attiré par les radiations, c'est pour ça.
Serait attiré
par les radiations. Moi, je pensais qu'on avait inventé le micro-puçage récemment.
Mais par le micro-puçage, ça revient encore une fois dans certaines théories. Il y a eu des attaques de requins en décembre 2010. Et vous allez voir, là, c'est un thème récurrent, c'est pas juste deux, trois occasions. On rappelle tout le temps, dans les pays qui entourent Israël, que Israël envisagerait d'avoir des attaques d'animaux. Décembre 2010,
des
il y a
attaques
plusieurs...
d'animaux?
Ah, mais là, il y aurait eu des attaques de requins sur la côte du Sinaï du Sud, en Égypte.
Dirigées par Israël.
Ben, on a trouvé un requin d'ailleurs par la suite qui avait un petit micro-puçage dessus, ouais, ça, une puce dessus qui était faite pour étudier.
C'est ça. C'était fait par le National Geographic ou des observateurs de la faune.
Fort probablement, mais il y a un capitaine tout de même des forces armées égyptiennes qui a avancé que non seulement c'était fait pour relocaliser sa position de la géolocalisation, mais également pour contrôler à distance le requin pour mener des attaques et déstabiliser le régime égyptien. Rien de moins. Ben et oui. c'est des revendications qui ont été prises très au sérieux.
Le prochain Jason Bourne mettra en vedette un requin.
Mais moi, ça me fascine parce qu'une haine profonde et viscérale dans les entourages pour Israël qui se traduit par ce genre de fantaisie animalière, si on veut. Y a le gouverneur du Sinaï du Sud qui a dit que les théories selon lesquelles le Mossad lancerait des requins tueurs contrôlés à distance dans l'océan n'était pas confirmé, mais n'était pas une théorie à écarter. Alors, même les officiels, même les politiques, les personnages politiques ne veulent pas nier ce genre de théorie.
C'est peut-être le vieux requin là, qui était à Hollywood Studios là, pour Jaws. Ouais. Il n'est plus là, ils l'ont sorti. Peut-être que c'est ça qu'ils ont pitché dans l'océan.
Peut-être. Et peut-être qu'il est réellement contrôlé. Là,
voilà.
Steven Spielberg est juif lui-même, non?
Oh!
Bon, là, on approche vers quelque chose. Et ça se continue pour des animaux et des animaux encore. En 2016, il y a eu des sangliers. Des espèces de sangliers, des gros cochons sauvages.
C'est ta chronique, c'est ma première fois, mais vraiment, c'est très le fun. C'est comme des crottes de fromage.
Merci. Je suis toujours content que mes chroniques soient comparées à des crottes de fromage. Le squick-squick.
Oui. On en veut d'autres. Continuons.
Ben oui, les cochons, donc, des cochons sauvages, les autorités palestiniennes qui ont accusé, il y avait des problèmes de cochons sauvages dans la campagne. Ils ont dit, c'est Israël. Ils relâchent des cochons qui ont été élevés en laboratoire pour venir détruire nos champs, notre agriculture. C'est prouvé. Il y a même une petite fille de 10 ans, une petite palestinienne qui a été mordue à la main par un cochon. On a dit
un que cochon un sanglier.
Un cochon sauvage, sanglier, là, dans tous les cas, des gros cochons qui ravagent les cultures, hein, qui creusent. On sait qu'il y a eu des problèmes d'ailleurs au Québec même, de cochons sauvages là, qui détruisaient certains habitats. Là,
c'est ça qui est dans le fond de ma cour.
C'est peut-être ça.
Non, écoute.
Ça explique toutes les choses. Et on peut en retrouver partout. Là. On a parlé de reptiles, de requins. Il y a eu également une instance où les Iraniens auraient capturé un dauphin du Mossad. 2015.
C'est reconnu, c'est l'animal le plus intelligent, je pense.
L'animal le plus intelligent. Ouais, mais il y avait déjà des rapports comme quoi il y avait certaines forces spéciales russes, entre autres, qui voulaient entraîner des dauphins pour trouver des mines. Ce qui peut être
trouver des mines dans l'eau, évidemment.
Ouais, des mines dans l'eau.
Pour moi, un terrain miné, c'est
non, non, effectivement, j'imagine mal. Ça serait relativement difficile.
Quoique, avec la technologie d'aujourd'hui, le dauphin pourrait peut-être modifier génétiquement, marcher dans le désert, on sait pas.
Ben, peut-être. Et là, c'est les médias iraniens qui rapportaient en 2015 avoir capturé un dauphin. Littéralement, ils ont capturé un dauphin en disant qu'il portait de l'équipement d'espionnage venant d'Israël et même, attention, une partie robotisée qui permettrait de lancer des flèches et des balles sur des ressortissants italiens qui se baigneraient. Non, c'est pas des blagues. En 2015,
il me semble de voir le dauphin avec une ceinture de cowboy là, avec des petits guns. Mais la vérité, par contre, je dois reconnaître que de tous les animaux que tu m'as mentionnés dans le règne animal, le dauphin est certainement celui qu'on pourrait le mieux imaginer le dresser, hein, l'entraîner à faire. Ça ne m'apparaît pas.
Plus que des caméléons. Disons-le, plus que des caméléons.
Oui, mais le cerveau reptilien, à ce que je sache, on l'a dépassé.
En tous les cas, ça a été rapporté par tous les médias iraniens. Ça fait grand tabac, le dauphin espion. Mais c'est des histoires, comme je dis, qui se répètent. Là, on peut aller un peu partout. En 2007, ils ont capturé, en Iran encore une fois, 14 écureuils. Des écureuils espions, encore une fois, envoyés par Israël immédiatement.
Ça, c'est écrit digitalement. Ça consomme de l'électricité sur l'Internet, là. Pourquoi lise qu'on le voit, là?
Absolument. Oh,
si c'était imprimé, ça gaspillerait de l'encre. Incroyable.
Exactement. C'est imprimé devant moi. C'est d'une tristesse sans borne. Mais effectivement, des écureuils espions qui seraient allés pour le compte d'Israël, encore une fois, espionner le régime iranien. Une thématique qui revient encore et encore. En 2011, c'était des vautours. Les vautours griffons, qui est une espèce qui est en voie de disparition dans les montagnes israéliennes. L'Université de Tel Aviv qui avait mis des petits marqueurs GPS sur les pattes de leurs vautours. Ben, les vautours ont été capturés.
Encore une fois, il y a certains oiseaux qui, factuellement, ont été dressés pour faire toutes sortes de choses particulières.
Pensons aux pigeons messagers.
Oui, voilà. Oh, on a une modernisation de l'expression. Pour moi, mais il y a Jonathan Trudeau qui fait son entrée dans le studio. Il a entendu le pigeon messager. Pour moi, une question de génération ici, pour moi, c'est un pigeon voyageur.
Moi aussi.
Ah, bon, alors...
Des jeunes
bouleversent les traditions.
Ah oui,
mais c'est beau.
Toujours les jeunes.
Il faut qu'on s'en passe, oui, mon oncle.
Ben,
c'est parfait, ça.
Mais non, mais c'est, puis là, c'était pour ce qui est des vautours, là, cette fois-ci, c'était l'Arabie Saoudite. Là. Tous les pays à peu près autour d'Israël ont lancé leur théorie par rapport à des animaux, une fois ou une autre. Puis j'ai terminé en juillet 2008, encore une fois, les Palestiniens qui avaient accusé les forces israéliennes d'envoyer des rats surnaturels. Des rats qui ont été entraînés en laboratoire, génétiquement modifiés, plus gros que des chats, selon ce qui était rapporté par les autorités palestiniennes, pour aller tasser, rendre la vie misérable des Palestiniens qui vivaient près de Jérusalem et autres. Ce qui est un peu triste là-dedans, puis même si ça, moi aussi ça me fait sourire, là on a nommé là, des dizaines d'animaux qui ont été accusés à un moment ou à un autre dans l'histoire récente, mais le parallèle avec les rats...
Injustement.
Ben, fort, injustement pour les animaux, c'est injustement pour Israël. Je pense qu'il y a des critiques qui peuvent être émises dans un cadre moins farfelu, disons-le.
La société mais, animaux vont intervenir.
Ce qui est tout de même triste, c'est que le parallèle avec des rats, à ce moment-là, qui a été fait qu'on a, en 2018, encore une fois, en mars 2018, ça a été ramené une autre fois encore aux autorités palestiniennes, comme quoi les rats viendraient détruire les cultures, viendraient détruire les récoltes. S'il y a un comparatif à faire, qui est assez triste quand même, avait au Moyen-Âge, où les Juifs avaient été accusés une autre fois d'amener la peste noire, entre autres, de l'avoir donné aux rats, des Juifs qui se transformaient en rats même pour porter la peste noire. Il y a eu des massacres terribles à cette époque-là. Puis un parallèle un peu terrifiant tout de même à faire entre ces accusations-là qui reviennent, je le rappelle, en 2018, récemment, par rapport aux Juifs, aux rats, à l'État d'Israël, le complot sioniste. Comme je dis, il y a des critiques à faire, mais je pense que là, c'est un peu farfelu. Puis ça fait beaucoup d'animaux sur lesquels ils viennent bouc émissaire.
Alexandre Moranville, je suis sans mots, Jonathan, je ne sais pas pour toi, mais je me demande, tout ça a-t-il commencé avec l'Arche de Noé?
Probablement. Et moi, une des questions que je me pose, c'est est-ce que les rats et les écureuils ont été rémunérés? C'est ça, c'est important aussi.
Ben, ils ont des droits, puis il est grand temps qu'ils se syndicalisent.
Ben, effectivement, là, t'as raté le début.
Formule Ren pour les...
T'as raté les caméléons, les dauphins, les requins, les vautours.
Oui. Micropucés. Oui.
Absolument.
Les agents
contrôlés, d'ailleurs. Le Mossad.
Alexandre Moranville, Ouellet, merci beaucoup pour cette chronique très divertissante. Jonathan, tu es maintenant ici en studio.
Oui, j'aime ça venir à Montréal.
Ben oui.
J'aime ça venir à Montréal. Puis, tu sais, j'essaie de venir le plus souvent possible, mais bon, avec la famille et tout ça, c'est pas évident. Mais c'est le fun de travailler à distance, mais d'avoir la gang ici, que ce soit en studio à Cube ou en allant à TVA, c'est le fun.
Ben, c'est clair. C'est toute une histoire. Qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui crée l'exception de ton passage dans le beau grand Montréal?
Des fois, je me trouve juste des excuses, mais je te le donne en mille. Demain, on fait une entrevue en studio avec Lara Fabian.
Oh.
Avec Anaïs Gertin-Lacroix qui va être là. Donc, je trouvais que Lara Fabian méritait que je mangue mon popotin, que je me déplace à Montréal plutôt que de faire ça à distance.
Le mot popotin qui revient après avoir été ramené à la mode par Yves-François Blanchette en parlant du
ministériel. Ben oui, ben oui.
T'es surpris que ce soit pas mis à l'index, cette expression-là. Est-ce que tu dis à l'Assemblée nationale c'est à l'index?
Probablement.
Le mot
écoute, il y a tellement de mots ridicules qui sont à l'index à l'Assemblée nationale.
Je te félicite d'avoir la chance. Je suis vraiment content d'en entendre plus parler. Lara Fabian, qui on a souvent évoqué, bon, c'est une coach vraiment très pertinente à la voix, mais c'est surtout, et ça on n'en parle pas souvent, une grande autrice, compositrice. Elle a fait la plupart de ses grands succès. C'était elle qui en écrivait soit les paroles ou la musique. C'est quelque chose qu'on ignore souvent. Et Dieu sait que ses premières chansons étaient très personnelles. Mmh. Honnêtement, j'étais encore bouleversé de l'entrevue qu'on a donnée tout à l'heure, que nous a accordée Mme Simard.
Oui.
Hein, parce que clairement, ici, il y a une prise de parole. Puis Lara Fabian, à l'époque, prenait la parole bien au-delà qu'on pouvait croire. On la croyait comme une interprète avec une voix exceptionnelle.
Ouais.
Mais il y a toute une démarche d'écriture. Puis je suis content que tu puisses en parler davantage. Elle lance un nouvel album?
Elle est en tournée de promotion, dans le fond. Elle fait des spectacles. C'est pas un nouvel album. Elle est là. Elle est présente au Québec. Donc, pourquoi ne pas prendre l'occasion de lui parler? Ça va être demain. Par contre, aujourd'hui, entre autres, on parle avec quelqu'un qui a vraiment une job assurément emballante. Patrice Lavoie, qui est le directeur corporatif des affaires publiques chez Loto-Québec. On va parler du jeune homme qui a gagné un immense gros lot de 70 millions. On a peut-être même un petit scoop, là.
Mais c'est la première fois que ça arrive au Québec, ça.
Un si gros lot que ça, oui.
Incroyable.
Mais est-ce qu'il décidera de garder tout ça pour lui ou est-ce qu'il aura décidé d'emblée de le partager avec des gens? Je sens qu'on va avoir des petites nouvelles dans quelques minutes avec Patrice Lavoie. Également, une entrevue très humaine avec Mathieu Goyer. Qui est Mathieu Goyer? C'est un des ambulanciers qui est intervenu l'année dernière sur le carambolage d'autoroute 440 qui avait causé la mort de quatre personnes. Un long congé de maladie pour lui et son collègue. Et là, ils vont être honorés par l'Assemblée nationale. Il accepte de venir nous parler de son expérience puis aussi de la pertinence d'encadrer. Les premiers répondants, moi, j'en parlais beaucoup la semaine dernière avec le carambolage de l'autoroute 15. On va discuter de ça avec lui.
C'est des métiers qui peuvent être très, très traumatiques.
Ben oui, et on n'y pense pas assez souvent. Et l'autre entrevue que j'ai bien hâte de faire, connais-tu le Festival d'été de Québec, Pierre?
Bien sûr.
Okay,
bien
c'est sûr. Une religion pour nous à Québec. Là.
Ben, je comprends. Puis vous avez quand même inventé l'accès avec un bracelet, tout ça. Là.
Ah oui, c'est-tu eux autres qui ont inventé ça?
Je pense qu'au Québec, vous avez été dans les premiers
bons
à faire.
Ils sont bons. Oui. Et Louis Bellavance, le directeur de la programmation du Festival d'été de Québec, va être ici en studio. Faut bien que je sois à Montréal pour recevoir en studio à Montréal le directeur de la programmation du Festival d'été de Québec qui est en tournée de promotion. La grille du festival qui a été annoncée hier, donc on va l'avoir en entrevue tantôt.